Cahier, stylo,
le thé, c'est parti.
Bonjour et bienvenue dans Play Pause Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font.
C'est un métier de l'ombre qui me va très bien.
On officialise les films, on est là pour faire le meilleur film possible.
Dès que tu commences à dérocher, c'est comme si c'était une sorte de pacte qui se crée entre les images et nous.
On est souvent confronté au problème de redonner aux archives qu'on a déjà vues partout une nouvelle vérité qui fait qu'on les regarde à nouveau.
La 3D, c'est un truc qui est vachement intéressant à monter parce que tu dois tout fabriquer.
C'est beaucoup d'imagination et en fait, le son aide beaucoup aussi.
Play. Pause. Cut.
J'ai retrouvé le monteur du jour en plein centre de Paris, dans le calme de bureaux désertés après une journée bien remplie. Il aime travailler dans la pénombre sur des captations de concerts, des documentaires ou changer de fauteuil à l'occasion pour les courts-métrages qu'il réalise. On a parlé de Rachida, de Mylène Farmer, de Jacques Audiard ou encore de la remise en question et du doute permanent en montage. Bienvenue dans la salle de Lionel Delebar.
Hello.
Salut.
Ça va?
Je ne sais pas quel cours c'était, comme j'ai vu marqué Ciné TV là.
Ouais, en fait, il y a une clé là, mais je n'ai pas le code.
D'accord.
Deux salles de montage.
D'accord.
Jules et Jim.
Jules et Jim, ah ouais, d'accord. Ok. Post-it sur la fenêtre. Ah, pas que. Oh là là, j'avais pas vu.
Oui, un peu partout.
Ouais, ça commence déjà.
Ouais.
Ça fait quoi? Ça fait une semaine que t'es là?
En fait, c'est le sixième jour aujourd'hui. Donc, on a fini le plus grosse part du dérochage hier.
Ouais.
Et aujourd'hui, voilà, on a commencé à vouloir avoir envie de d'avoir une vue d'ensemble.
Ouais.
En s'aidant de post-it. Mais comme c'est un film sur Rachid Taha, forcément, c'était difficile de faire rentrer les choses dans les cases. Donc on a un peu explosé, ouais. Enfin, de refaire la déco de nuit.
D'accord, donc il y a des post-it sur les fenêtres, sur les murs,
voilà.
Sur le tableau.
C'est une étape où tout explose, après il faut qu'on arrive à canaliser un peu tout ça.
Ouais.
Et trouver notre chemin en fait. On est en train de prendre la mesure du nombre de balles avec lesquelles on va jongler.
Je vérifie juste parce que comme il fait pas très clair, oui j'ai changé les piliers, donc ça devrait être bon. Voilà, donc on peut commencer. Bonjour Lionel.
Bonjour. Enfin, en fait, j'ai passé la journée à regarder des archives avec des plateaux télé, etc. J'ai l'impression d'être dans des mots de minuit.
Des mots de minuit, oui, parce que c'est... Bah, en même temps, l'ambiance là est très... voilà, en plein hiver, il fait tout noir, hein. Et t'as pas beaucoup d'éclairage dans ta
non,
salle, quoi.
Je pourrais avoir, mais j'aime bien...
T'aimes bien être dans la pénombre.
J'aime bien être dans l'ambiance tamisée.
Non, t'aimes bien confort, monter dans le noir, toi.
Confort visuel. Ouais, j'aime bien. Ouais, je préfère ça, là, le gros
ouais.
Néon.
Ouais. Bon, oui, c'est vrai que les néons, c'est pas terrible non plus.
Non, puis là, il y a une fenêtre, donc la journée...
Oui, t'as quand même la lumière jusqu'à... 4h30, 5h.
Oui, c'est ça.
Plus...
Oui, c'est ça. Ça tombe vite.
Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta salle de montage?
Eh bien voilà, on est chez Ciné TV, donc dans le centre de Paris, près de l'hôtel de ville. Et une boîte de prod qui fait plein de choses, dont du documentaire, qui possède deux salles de montage dans leurs locaux. Donc Jules et Jim, c'est le nom des salles de montage. On est dans la salle Jules, donc la plus grande des deux. C'est une salle plutôt spacieuse, avec des murs blancs, qui sont revêtus de cette matière qui fait que les post-it collent mal dessus.
Oui.
Commence la deuxième semaine du montage d'un documentaire sur Rachid Taha, voilà, pour France Télévisions, donc 52 minutes. En fait, je connaissais un peu, bien sûr, mais sans plus. Et là, depuis une semaine, on a fait un voyage dans les archives, les interviews. On a vu quasiment presque tout ce qu'on a, pas tout à fait tout, donc pas mal de choses.
Et du coup, c'est assez biographique, en fait. Enfin,
Oui, c'est-à-dire le but, c'est de raconter la vie de Rachid Taha, sa personnalité, comment il va traverser aussi la France des années 80 jusqu'à 2018.
Mm-hmm.
Voilà, avec les questions de société qui vont traverser la France, notamment le racisme et la montée du fascisme.
Oui. On dit les termes.
Ben, en tout cas, lui, il les disait. Ouais. Effectivement, il parlait de sa peur du fascisme à une époque où il n'était pas de bon ton de redire ces mots. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait bien besoin de gens comme Rachid Tahar.
Ouais. Et alors, toi, en général, tu fais beaucoup de documentaires musicaux. Enfin, en tout cas, tu en as fait.
Alors, ce n'est pas un documentaire musical, hein, c'est un documentaire de société, pour le coup. Ouais. Donc, même s'il y aura beaucoup de musique dedans. Et heureusement, parce que justement, enfin, lui, il ne voulait pas avoir l'étiquette de militant, forcément. Lui, il ne voulait pas avoir d'étiquette de toute façon.
Oui.
Et la seule qu'il aurait peut-être voulu avoir, c'était celle d'être chanteur de rock.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ?
Oui. Alors, moi, ça fait 20 ans que je suis monteur. Ça ne me rajeunit pas. Et quasiment jour pour jour, parce que j'ai commencé en novembre 2002. Bah, on est en décembre 2022.
Ah ouais.
J'y ai pensé.
Joyeux.
J'aurais dû ramener le champagne.
Joyeux 20 ans de carrière.
Premier contrat en novembre 2002. J'ai découvert le montage après un parcours de formation scolaire, plutôt littéraire.
T'as fait une option cinéma, du coup ?
Ouais, j'ai fait un bac L, donc option cinéma.
D'accord.
C'est au sein de cette option que j'ai découvert le montage. Mm-hmm. Alors qu'à l'époque, j'étais plutôt attiré par la réalisation, l'écriture. Et je me suis rendu compte... en option cinéma, à la fin, ça n'a pas changé depuis, mais à la fin de la terminale, on doit présenter un film. Enfin, il y a une épreuve de scénario, déjà, écrite, mm-hmm. et une épreuve orale, où il faut fabriquer un film et en parler, le défendre devant un jury. Mm-hmm. Et c'est pendant la fabrication de ce film que j'ai découvert le montage. À l'époque, c'était avant Humatic. C'était déjà complètement dépassé à l'époque. Hein. Mm. On est en 99. Et ça, c'était la récup que j'ai fait le lycée. Bah, d'ailleurs, j'ai encore le film sous ce format-là. Je ne sais pas quoi en faire. Ouais. Et donc, voilà, c'est sur ce banc de montage qui était assez marrant parce qu'il était assez simple d'utilisation, mais ça glissait. C'est-à-dire qu'on faisait un preview. Et au moment où on enregistrait, c'était pas tout à fait ce que tu avais eu dans le preview, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait 2-3 images, peut-être même parfois plus, de décalage par rapport à ce que tu prévoyais de faire.
D'accord. Donc c'était un peu flottant.
Ouais, c'était un peu rock'n'roll. Mais c'était super. Enfin, j'ai découvert le pouvoir du montage à ce moment-là, vraiment. On était un groupe de 4, c'était moi qui avais écrit le scénario. Mmh. Et on avait tourné, le tournage a été une catastrophe parce qu'on était jeunes, quoi. Et on s'est complètement planté sur plein de choses et on a découvert qu'on pouvait tout changer au montage, pour le meilleur ou pour le pire. En tout cas, c'est là que j'ai découvert vraiment en le faisant à quel point le montage était une nouvelle écriture en soi. Donc, ayant fait un cursus L et voulant me lancer dans l'audiovisuel, j'ai très vite découvert après le bac qu'en fait... tout ce qui était BTS, etc., c'était technique. Mmh. Et donc, ceux qui venaient de L n'étaient pas forcément les bienvenus, à l'exception peut-être du montage.
Ça tombe bien.
C'était un peu la seule option où on tolérait les littéraires. Et encore, dans le BTS où j'y étais à Roubaix, on les tolérait parce qu'il y avait des profs d'art qui avaient envie qu'il y ait un peu plus de littéraire dans les classes, quoi. Donc j'ai fait un BTS à Roubaix, et après le BTS à Roubaix, j'ai travaillé à France 3, Lambert Sarr, que tu connais bien. Et c'est là que j'ai fait mes premiers contrats, des quotidiennes, des choses un peu faciles, quoi. Et puis petit à petit, des 26 et des 52 minutes. Et après, j'ai voulu aller sur Paris, et du coup, sur Paris, grâce au réseau que j'avais commencé à me construire à France 3 Productions, l'URP du Nord-Pas-de-Calais, j'ai pu commencer à bosser.
C'était une volonté d'aller vraiment sur Paris dès le début. Tu pensais où l'opportunité s'est présentée.
Au départ, en fait, moi, je suis né dans le Nord. J'ai fait mes études dans le Nord. J'ai grandi dans le Nord. Enfin, au bout d'un moment, je me suis dit bon, et si j'allais voir, si j'allais élargir mes horizons. Donc, j'avais envie de, même si j'aime bien la région, ma région d'origine, mais j'avais envie de d'en partir pour aller voir ce qui se passe ailleurs, et surtout que dans le niveau cinéma, audiovisuel, tout se fait encore quand même pas mal à Paris.
Et tu as fait des rencontres particulières à Paris, enfin, où tu as des personnes qui t'ont un peu poussé?
Ah bah oui, bien sûr, il y a plein de gens qui m'ont poussé, qui m'ont fait découvrir d'autres choses, qui m'ont fait bifurquer, qui m'ont fait grandir aussi, qui m'ont fait évoluer. Et c'est un métier passionnant que j'adore, et ça en est l'une des raisons, les rencontres qu'on fait, qui nous font grandir, et dans, au sein du métier, et en tant qu'être humain, en fait. Mm. Ça, c'est à la fois donc, les gens et les sujets auxquels on est confronté.
J'ai l'impression qu'il y a quand même souvent des liens avec la musique dans ce que tu fais.
Alors oui, alors ça, c'est pas venu tout de suite. Ça, c'est... quand je te disais que le montage, ça permettait de grandir et d'évoluer, ça, c'est des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure. Mmh. Au départ, moi, si j'ai fait ce métier, ce qui m'intéressait, c'était le cinéma, la fiction, comme beaucoup, j'imagine. Mais et je me suis retrouvé un peu par hasard à monter des documentaires. Et petit à petit, je me rendais compte que je m'y sentais bien, en fait, que je trouvais ça super de découvrir des univers, des sujets. En général, d'ailleurs, ce qui m'éclate le plus, c'est les documentaires, donc je ne connais pas du tout le sujet, en fait.
Mmh. T'aimes bien partir de zéro
Ouais, ou de pas beaucoup, de découvrir, découvrir au fur et à mesure. Premier documentaire 52 minutes que j'ai fait, c'était sur une chaîne de montage automobile.
D'accord.
C'était un film qui parlait de l'histoire de la lutte des classes à travers le portrait d'ouvriers d'une chaîne de montage automobile d'une usine à Renault.
D'accord.
De poids lourd Renault. Mmh. Renault Trucks. En Normandie. Un super film. Et de fil en aiguille, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était justement de passer un peu du coq à l'âne et de faire des choses très très différentes, en fait.
De varier les plaisirs. Ouais.
Voilà. Mmh. Et dans toute cette exploration, je me rends compte que tout ce qui touche à la musique me plaît, me parle, m'intéresse, et que je me dis, tiens, j'aimerais bien monter des concerts, des clips, des trucs comme ça, quoi. Et j'en parle autour de moi, et un chef-op, William, me branche sur un mec qui s'appelle François Godgeber, et qui réalise pas mal de concerts, etc. Et du coup, je me mets à travailler avec lui, on s'entend super bien, donc il m'embarque sur plein d'autres projets musicaux, des grosses émissions de divertissement. À un moment donné où j'étais en train de me dire, justement, tiens, je fais un peu des choses un peu répétitives. Et grâce à cette rencontre, ça m'a ouvert d'autres portes, quoi. Plein d'autres en même temps, en fait. Et du coup, ça m'a permis aussi de faire aussi des projets un peu hybrides. C'est ça qui m'intéresse aussi, ouais.
Et qu'est-ce que t'aimes dans le montage de musique, enfin, de captation, enfin, de concert,
ouais. En ce moment, justement, ce que j'aime bien, c'est d'alterner entre des documentaires et essayer de ne pas en enchaîner plusieurs d'un coup. J'ai trouvé qu'après un documentaire, faire un concert de musique, c'était super cool.
Mais parce que c'est plus court, peut-être, en termes de temps de montage.
Alors oui, oui, c'est vrai qu'il y a déjà ça. Mais c'est aussi en termes de mobilisation intellectuelle, en fait. C'est-à-dire, un documentaire, c'est toujours compliqué. On est sur un temps long, on est immergé dans un truc, effectivement, il y a ça.
Et puis on est très impliqué dans la structure.
Voilà, c'est ça. On réfléchit beaucoup, structure, narrative, ce qui est passionnant, ce que j'adore. Mmh. Mais après avoir réfléchi comme ça pendant plusieurs semaines,
ouais.
Passer 2-3 semaines sur un concert, c'est reposant. On se laisse porter par la musique.
Oui, c'est ça. Tu connais à peu près l'ordre.
Oui. En fait, la structure narrative, elle est déjà toute faite, vu que c'est celle de l'artiste, c'est celle du concert. Et donc, il suffit après de l'accompagner au mieux, en termes visuels, au montage. Et c'est un exercice hyper intéressant aussi. Enfin, qui est plus du registre de l'instinct, de l'émotion, le fait d'être plus dans le ressenti. Enfin, on l'est aussi dans le documentaire, bien sûr, mais en musique, il n'y a finalement que ça, en fait.
Ouais.
Enfin, il y a un côté méthodique, il faut trouver la bonne méthode, faut être efficace, parce qu'on a parfois des temps de montage assez serrés, mais il y a un côté pur ressenti où je me sens bien, en fait.
Et du coup, quand tu dis pur ressenti, quand tu commences un montage de capta, de captation, en général, t'as peut-être un programme qui est déjà fait, enfin,
ça dépend.
Les changements, oui, ou alors est-ce que toi tu repars de tu préfères repartir de zéro et te faire une passe peut-être je sais pas comment tu procèdes.
Ça dépend beaucoup du temps qu'on a et du réalisateur, hein. Certains font pas du tout de switch en direct, D'autres en font, mais ils le font sans grande conviction. D'autres, en revanche, sont hyper bons là-dessus et sont très carrés. Et ouais. Je pars toujours du switch du réel, ouais. Même si j'en garde pas beaucoup au final, parce que rien ne remplace, quel que soit le talent du réalisateur qui se fait faire des switches en direct, rien ne remplace le pouvoir qu'on a au montage de revenir en arrière et de comparer nos options. Mais il y a un côté accidentel dans un switch qui se fait en direct qu'on peut difficilement parfois reproduire au montage. Mmh. Et quand j'ai pas, dans les cas où j'ai pas de programme, je le fais moi-même, en effet. Je le fais très mal, mais ça crée parfois des heureux accidents, en fait.
D'accord.
Ce qui me plaît dans le montage de Captas, c'est d'éviter d'être un peu scolaire, quoi. Mmh. C'est-à-dire, parfois on le demande, hein. Parfois, dans certains types de démissions, justement, la consigne, c'est attention, faut bien voir la flûte quand la flûte, elle joue.
Ouais.
Faut bien voir la guitare quand la guitare, elle joue. Bon, ok. Après, au montage, ce qui est amusant, c'est justement d'essayer de voir ce qu'on peut faire d'autre. Parfois un échange de regard entre un bassiste et un batteur sera plus important que le guitariste qui joue, même s'il joue bien.
C'est vrai, les gestes ou
ouais.
Les choix de cadrage, petite fumée dans la lumière.
Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et puis,
Ce genre de choses,
les heureux accidents au cadrage aussi. Parfois un recadrage, parfois une caméra qui est un peu flottante mais qui cherche un truc. Va plus générer une émotion qu'un plan propre, bien composé et descriptif. Mais c'est pour ça que les captations, parfois, c'est intéressant, parce que quand on va loin dans le travail de la capta, on se rapproche du clip.
Ouais.
On s'éloigne du concert filmé, on se rapproche du clip. Et c'est vrai que dans certains concerts que j'ai montés, on allait vraiment très 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 loin dans le... On quittait complètement le côté concert filmé, quoi.
Tu penses à un projet en particulier?
Plusieurs.
Je sais pas, par exemple, moi, tu m'avais parlé du concert de Mylène Farmer, qui était assez,
ah, oui.
assez exceptionnel en termes de moyens et de temps de montage et de réalisation, quoi.
Ah ben oui, pour le coup, Mylène Farmer, c'était quelque chose, oui.
C'était les concerts à l'U Arena, non, c'est ça?
Ouais, c'est la Défense Arena en 2019.
Ouais.
Mais c'était le plus gros concert en termes de moyens auquel j'ai participé. On était quatre monteurs, on avait un temps... beaucoup de temps en montage par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et en même temps, on était pressé par le temps parce qu'il fallait finir à une date précise pour fabriquer le DVD. Donc oui, le travail, là, ça se rapprochait davantage du clip, étant donné qu'on s'appuyait sur plusieurs prises différentes de chaque chanson, tournait à plusieurs caméras à chaque fois. En fait, en gros, on avait une trentaine de plans virtuels, parce que c'est un mélange de plusieurs journées de tournage, mais on avait une trentaine de plans virtuels. Donc dès lors, on ne peut pas monter ça, c'est beaucoup trop. On ne peut pas monter ça comme une captation classique avec 9-10 caméras. On monte ça comme un clip, c'est-à-dire qu'on regarde chaque plan
ouais.
et on choisit celui qui génère la meilleure émotion à tel moment, etc.
Et du coup, comment tu as procédé? Tu as regardé les 30 en sélectionnant le meilleur des 30 et après en faisant ton mélange ou comment tu... enfin...
Oui, c'est ça.
Ouais.
En fait, en gros, on était quatre monteurs, donc chacun avait sa méthode, chacun avait d'ailleurs son approche et sa patte, et c'est ce que le réalisateur cherchait aussi. Qu'est-ce que chaque monteur s'exprime.
D'accord.
Ouais, c'est plutôt chouette. Et ma méthode à moi, ça consistait à regarder effectivement chaque caméra. On avait le temps pour ça. Une chanson, on pouvait mettre 2 jours pour aboutir une première version.
Donc là, 2 jours pour une chanson, et juste pour avoir un rapport.
Pour avoir un rapport,
une famille de ça.
Une captation avec un temps de montage correct. Souvent, pour un concert d'une heure et demie, j'ai 10 jours.
D'accord.
Donc ça fait en gros, c'est 4 chansons par jour, 3-4 chansons par jour.
Oui, et avec beaucoup moins de caméras et de
Avec beaucoup de moins de caméras et de tournages. Oui. Heureusement, sinon on serait un peu perdu.
Oui, c'est avec une journée, enfin c'est tourné en une fois. Et,
oui, c'est ça, c'est une seule prise.
Je sais pas combien de caméras, 8-9.
Oui, souvent c'est 9-10, une dizaine de caméras.
Oui, donc là, c'était...
Donc là, c'était autre chose. Donc ouais. L'approche, c'était plus celle du clip, où effectivement, on se retrouve avec plein de caméras superposées les unes sur les autres sur sa timeline. On regarde tout et on sélectionne le meilleur à l'instant T. Et après, on essaye de construire quelque chose avec ça.
Je crois que tu as eu des expériences un peu particulières avec des réalisateurs de cinéma aussi.
Ah oui, alors justement, on peut faire l'extrême inverse, toujours dans la captation et Mylène Farmer, 30 caméras. Raphaël, 5 caméras.
Et Raphaël, c'était réalisé
Raphaël, par... c'était Jacques Audière qui avait réalisé ça.
Ouais, qui n'avait jamais fait de captation.
Et donc, lui, son approche, c'était justement de ne pas s'encombrer d'une multitude de choix possibles. Lui, il voulait retrouver une écriture qu'on pouvait avoir à l'époque des concerts filmés des années 70, c'est-à-dire où il y avait peu de caméras et en même temps la vidéo commençait à arriver avec les effets vidéo. Et donc on essayait des trucs, quoi. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant chez lui, c'est cette approche donc, justement de la captation qui était justement de se mettre soi-même en danger. C'est-à-dire, quand t'es réel de capta, tu cherches à filmer le plus de choses possible pour avoir le plus de choix possible, pour pouvoir rendre compte du concert, et ce qui est une approche tout à fait... louable. Audière, lui, il voulait se mettre en danger pour faire des choix sur le moment, au moment de filmer, et en même temps trouver une écriture au montage qui permette de faire référence justement à ces années 70. Voilà, donc on a beaucoup utilisé le multi-fenêtrage. Au montage, on s'était amusé à trouver une identité visuelle par chanson, à trouver un découpage spécial. Alors, ce que j'ai appris avec lui, c'est que... Donc, il me laisse travailler là-dessus, chercher des choses. Et il débarque en salle de montage pour découvrir un peu des premières versions de parties du concert, etc. Et je me rappelle toujours de sa réaction. C'était... Mais en fait, il est content. Il est content et il est surpris.
Ah oui.
Il dit, ah, mais en fait, ça marche. Et là, je découvre qu'en fait, moi, je n'ai jamais mis en question son idée. En fait, je me dis, bon, ben voilà, c'est le réalisateur, il a cette idée-là. Et donc, je suis, en fait, je fais ce qu'on me dit, en gros. Hein. Mm. Partant de ça, j'essaye de trouver des variantes à ce qu'il propose, à alimenter l'idée de départ, quoi. Mm. Et donc, ça m'a surpris parce que je me suis dit, voilà, Jacques Audière, voilà, il y a plein d'idées, il sait ce qu'il fait, etc. Et en fait, je trouvais ça génial que ce réalisateur-là soit à ce point dans le doute, finalement.
Et puis, la façon dont tu la racontes, on a l'impression qu'il s'amuse aussi.
Oui, complètement.
Que c'est
complètement. Non, c'est un curieux mélange. C'est un curieux mélange de se mettre... Ouais, c'est ça, de se mettre en danger tout en gardant une place pour s'émerveiller. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et voilà, cette notion de doute m'intéresse beaucoup, en fait. C'est-à-dire... tout le monde doute, on est tous là, les monteurs doutent beaucoup, moi je doute beaucoup, montage, et les réalisateurs aussi avec qui je suis confronté, mais souvent c'est parce qu'il y a des contraintes, parfois des pressions, parfois complexes à gérer, des contraintes de budget, des contraintes de volonté, de chaîne, des contraintes, enfin là en salle de montage, des contraintes dues à des accidents au tournage, on est beaucoup, en fait, en montage, on est beaucoup à devoir régler des problèmes et trouver des solutions. Et donc souvent, effectivement, on a affaire à des réalisateurs qui ont plein de doutes.
Ouais.
Là, je m'étais dit, bon, Jacques Audière, ça va, c'est cool, il ne va pas avoir de doutes, lui. Mais en fait, si. Et en fait, et d'un autre côté, c'est hyper rassurant de voir ça, finalement. Et lui, son truc, c'est de dire ça. Enfin, pour lui, s'il n'y a pas de doute, s'il n'y a pas une sorte de crainte de ne pas faire assez bien les choses, ça n'a pas trop d'intérêt. Et je trouve qu'il a raison. Si c'était trop facile, ce serait chiant, en fait.
Oui, puis c'est une certaine forme d'humilité aussi par rapport
au... Et tout à fait, ouais, je pense, ouais.
Au tournage et à ce qu'il met en place, quoi.
Ouais. François Guttgeber, dont j'ai parlé tout à l'heure, a participé au projet en tant que conseiller à la réalisation. Voilà, donc c'est, lui aussi a amené beaucoup de choses et a beaucoup servi le projet au montage, en fait. Et à cette époque, je venais de le rencontrer.
Ah oui.
Donc ça a été un moment assez charnière pour moi. C'est-à-dire que je venais de rencontrer François qui m'ouvre d'autres horizons. Et je me retrouve à bosser avec Jacques Audière à quelques mois, à quelques semaines d'intervalle. Ouais, même pas quelques mois, à quelques semaines d'intervalle. Et ça m'a vraiment fait... Ça fait 12 ans peut-être que ça s'est passé. Et ça m'a donné vraiment un coup de boost. Et ça m'a... Je commençais à me poser des questions sur est-ce que c'est vraiment la place qui me correspond, est-ce que le montage, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose. Et en fait, grâce à cette rencontre de François, qui en a généré pas mal d'autres, hein, des monteurs, d'autres réalisateurs, ou des types de projets ou des productions, ça m'a vraiment donné un coup de boost. Si je suis là aujourd'hui pour bosser chez Ciné TV, le premier projet que j'ai fait chez Ciné TV, c'était grâce à François Guttgeber, donc je lui dois beaucoup de choses.
Ouais. Alors, je pense qu'on peut dire, on a Toi, t'écris aussi des scénarios de fiction ?
Ouais, alors plus en ce moment, mais j'écrivais.
Mais là, tu disais, Audiard, ça faisait à peu près 12 ans.
Ouais.
C'est à peu près à ce moment-là que tu réalises un court-métrage.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison.
Bah ouais.
Effectivement, c'est vrai que c'est carrément.
Que j'ai monté, donc.
Oui.
En partie, en tout cas, parce que
t'as. Ouais, non, c'est toi.
Et oui, donc t'avais quand même cette volonté aussi de.
Oui.
Du cinéma, du court-métrage en tout cas.
Oui, donc en effet, à cette époque, j'avais aussi essayé de réaliser des courts-métrages. Donc, j'en ai réalisé deux. Parce qu'en sortant du BTS de montage, ma volonté, c'était vraiment d'être réalisateur. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. Je fais des courts-métrages. Donc j'en ai réalisé un et je voulais le monter moi-même. Mm-hmm. Parce que je voulais être confronté, déjà pour l'expérience.
Ouais.
Et puis je voulais être confronté aux premières loges du Lionel réalisateur et voir toutes les bêtises que j'ai pu faire. mais en revanche, voilà, plus tard, j'ai voulu refaire un film. Et là, la démarche était différente. C'était plus. Le film me tenait à cœur, le projet me tenait à cœur.
Tu peux dire comment il s'appelle ?
Oui, pardon, Claire et Bruno, une histoire d'amour et de viande crue. Et donc, donc là, c'était plus dans une volonté de se recoltiner à la réalisation et à l'écriture, mais aussi, j'avais besoin de nourrir aussi mon côté monteur, en fait. Et être réalisateur, ça permettait d'apprendre énormément de choses sur tous les autres postes de la chaîne de fabrication d'un film, y compris ceux auxquels on est très peu confrontés dans le confort d'une salle de montage, finalement. Nous, on voit les images, on entend les sons... mais on est complètement étranger à la production de ces images, finalement. Mmh. Comment elles sont fabriquées, dans quelles conditions, etc. On le sait pas en théorie, on le sait en parlant avec le réalisateur ou la réalisatrice, mais on n'est pas directement confronté. Donc c'était une manière d'être confronté à ça et aussi d'avoir cette expérience d'être dans une salle de montage et de pas être le monteur. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Enfin, c'est la seule fois, pour l'instant, que ça m'est arrivé. Et c'est intéressant d'être confronté, justement, au travail de montage sans être aux manettes. Mmh. Et tout ça, ça a vachement enrichi mon métier de monteur, en fait, je pense.
De changer de chaise, un peu de...
Ouais, c'est ça. De diriger une équipe, de s'atteler à la direction d'acteur. Et puis de faire de la fiction, parce que je fais plein de trucs... Je bosse dans plein de domaines, mais il y en a un qui me manque un peu. J'aimerais bien y mettre un pied, mais les frontières sont parfois un peu épaisses, pas très poreuses, on va dire. J'aimerais bien faire de la fiction, ouais. J'aime bien faire plein de choses, parce que je trouve qu'en fait, c'est important de se nourrir en permanence de ce qui peut se faire d'autre.
Enfin, oui.
Comment dire je trouve que les domaines dans lesquels je bosse en tant que monteur se nourrissent les uns les autres.
Mm.
Et une des choses que j'ai vues dans cette expérience avec Jacques Audiard, c'est aussi qu'il lui-même se posait des questions de fiction sur un concert. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et depuis, effectivement, je me rends compte qu'en fait, que ce soit un reportage, un concert, un clip, une pub même, ou un documentaire, ou un court-métrage, ou un long-métrage, finalement, le dénominateur commun de nos métiers, dont le montage n'est pas que... c'est qu'on raconte des histoires, en fait. Donc, finalement, on se pose la même question.
Ouais.
Les méthodes ne sont pas les mêmes, les méthodologies de travail, les gens ne sont pas forcément les mêmes, mais c'est ça qui est chouette.
Ouais.
C'est de pouvoir passer comme ça, passer d'un univers à l'autre, sans s'enfermer dans un domaine. C'est ça que j'aimerais bien éviter, en fait. Je sais pas trop où je veux aller, mais je sais ce que je veux éviter, c'est-à-dire d'être vraiment, de faire qu'un seul type de projet. J'adore faire des docs, mais des documentaires, mais j'aimerais pas... Enfin, me suis retrouvé récemment dans une position où j'en ai enchaîné plusieurs, et ça me plaisait pas. Et à contrario, faire de la musique où je m'éclate, même faire que ça, ça m'ennuierait au bout d'un moment, je pense.
Ouais.
Alors, j'aime bien changer, ça stimule l'esprit.
Je me rappelle... d'un livre que tu m'avais conseillé, je crois même que tu me l'as offert. C'était En un clin d'œil,
ah oui,
de Walter Murch.
Oui, tout à fait. Quelques références de bouquins en montage. Et celle qui m'a le plus parlé, c'est Walter Murch. Alors, il y a En un clin d'œil, effectivement, qu'il a écrit, qui est passionnant, hein, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui vient du son.
Oui.
C'est un mixeur.
c'est un monteur qui a bossé sur Apocalypse Now, enfin il a fait Conversation secrète avec Francis Ford Coppola, et enfin il était vraiment au sein de cette équipe du nouvel Hollywood. Il était aussi vachement à la pointe sur les nouvelles technologies. C'est l'un des premiers à avoir utilisé Avid, je pense, hein, à Hollywood. Et à s'intéresser justement à cette transition nécessaire, hein, pour le coup. Et donc ces bouquins sont très intéressants parce qu'il parle à la fois du montage dans sa partie... artistique et aussi de son, parce que comme c'est quelqu'un qui fait du son, il parle de son, et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Et alors le bouquin que j'adore de lui, c'est Michael Ondaatje, genre pour le coup je suis pas sûr de bien prononcer son nom, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Conversation avec Walter Murch, et qui est une sorte de rencontre écrite un peu à la manière de Truffaut Hitchcock. Et c'est à l'initiative de Michael Ondaatje, qui est l'auteur du livre qui a donné ensuite Le Patient Anglais, qui a été adapté au cinéma, qui a été monté par Walter Murch.
D'accord.
Et c'était la curiosité intellectuelle, enfin en tout cas c'est comme ça qu'il raconte les choses dans le livre, de celui qui a été à l'origine de l'histoire et qui rencontre celui qui est à l'autre bout de la chaîne de la narration finalement. C'est-à-dire celui qui va réécrire l'histoire à partir des images tournées pour l'adaptation cinématographique.
D'accord.
Donc finalement, c'était deux auteurs qui sont chacun à un bout d'une chaîne de narration et qui parlent, et c'est passionnant. Finalement, le montage, c'est un peu toujours la même question, et quelle que soit l'époque aussi, finalement. Mm. Un monteur filme les années 40, va se poser la même question qu'un geek d'aujourd'hui qui fait 40 clics par seconde, quoi.
Oui.
Finalement, les méthodes diffèrent, les époques diffèrent, mais le montage reste le montage.
Oui, il y a toujours ce questionnement d'écriture, de structure, de d'émotion.
Mais voilà, et de recherche d'émotion. Comment transmettre une émotion? En fait, il y a un côté de transmission en fait chez le monteur finalement. C'est pour ça que c'est intéressant de lire l'expérience d'autres, d'être confronté à l'expérience d'autres monteurs. Yann. Quelque chose qui me plaît beaucoup dans le montage, c'est quand on travaille en équipe. Oui. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mm. Quand on est sur 4-5 monteurs sur un projet pour des raisons diverses. Moi, je parlais de Ian Farmer, il y a plein d'autres exemples pour notre expérience.
Mm. C'est pas si courant, et quand ça arrive, on est quand même très content, quoi, parce que c'est quand même un métier solitaire.
Ben oui, c'est ça. Ben oui, ça fait. Mais c'est... Ouais. Et puis c'est intéressant d'être confronté aux méthodes d'autres monteurs.
Oui, on apprend toujours les petits raccourcis qui va bien, ou la petite façon de ranger, qui machin.
Je pense parler du côté solitaire, et à la fois solitaire et travail d'équipe, mais en fait, il y a plein d'autres paradoxes dans ce métier que j'aime beaucoup. Et ce qui m'a vraiment attiré au départ dans le montage, c'était... le fait d'être dans un BTS, donc un brevet de technicien supérieur, et pourtant de venir d'un cursus littéraire. Et en fait, le montage, ce que je trouve génial dans le montage, c'est que c'est justement à la fois littéraire, artistique, et on est dans la construction d'émotions, de personnages, et en même temps, il faut savoir brancher des câbles et réparer un ordi, en fait. Et c'est ça que je trouve génial, de marier les deux, alors qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance, c'était justement... ces histoires de bac L, bac S à l'époque, on nous range dans des trucs, dans des spécialités, et je trouve que le montage, justement, parce que il est à cheval sur plusieurs cases, ça rend ce métier passionnant.
Oui, il échappe un peu aux catégorisations, finalement, malgré tout.
Ben ouais, et heureusement, et justement, parce qu'on est dans une position où on est amené, en tant que monteur, à travailler sur des projets différents, justement. Enfin, je pense que c'est... Et il y a une troisième dimension, et là, pour le coup, qu'on découvre uniquement en exerçant le métier, et non pas ni à la formation, ni même de manière théorique, parce que finalement, on en parle peu, c'est l'aspect psychologique.
Oui.
C'est le rapport que tu crées, le rapport humain que tu crées avec un réalisateur ou une réalisatrice. Mmh. Parce que quelqu'un, enfin, au montage, en fait, on est à deux dans une salle, enfermé pendant... plusieurs semaines.
Oui.
Et donc c'est important de créer un lien qui parfois dépasse le professionnel. En fait, il y a beaucoup de réalisateurs qui sont devenus des amis, et ça c'est chouette. Mm. Enfin, qu'on voit dehors du lieu du travail. Enfin, c'est un métier comme d'autres métiers audiovisuels. La différence entre vie professionnelle et vie privée n'est pas
C'est flou, quoi.
Voilà, quelque chose de flou.
Un monteur flou. C'est vrai que le montage est un peu glissant. Même sur... tu parlais tout à l'heure des discussions sur la construction et tout. C'est vrai que la frontière, elle est assez poreuse et, entre ce qui est de la réalisation et ce qui est du montage, quoi. Enfin... C'est un dialogue et tu vas avoir des réalisateurs qui te laissent énormément de place
pour
écrire et pour faire la structure, etc. D'autres qui ont une idée hyper précise où là, tu vas apporter plus un regard de technicien et de mise en image. Et de...
Oui, c'est sur ça que l'aspect, quand je parlais de psychologie, je parlais effectivement de savoir effectivement créer un lien avec la personne avec qui tu bosses, le réalisateur ou la réalisatrice, et en même temps... effectivement, créer le climat de confiance, enfin bref, on pourrait parler de la confiance qu'on s'accorde mutuellement, mais aussi effectivement savoir s'adapter effectivement aux personnes et au sujet avec lequel tu montes et aux personnes avec qui tu travailles, enfin à la personne qui en a qu'une, ce qui est à la fois plus facile que quelqu'un qui sera en tournage au sein d'une équipe où ça fourmille autour, et là aussi il faut avoir faut savoir s'insérer dans l'équipe et tout, et en montage c'est particulier parce que tu as un rapport à deux, en fait. Un rapport privilégié avec une personne. Et effectivement, il y a des réalisateurs qui vont être très sur deux, directifs, qui vont avoir écrit en avance. Et d'autres, au contraire, qui arrivent au montage avec plein de questions. Ils ne savent pas du tout par quel bout prendre le sujet. Et entre ces deux extrêmes, il va y avoir énormément de nuances. Mm-hmm. Et ça qui est cool au montage, c'est de s'insérer dans cette histoire et de trouver comment dialoguer plus efficacement avec un réalisateur. Et puis il y a des caractères très différents. Il y a des réalisateurs qui vont pas forcément être dans l'expression verbale. Donc le dialogue, il se fera sous d'autres formes que les mots, finalement. Ce sera plus des affaires de ressenti, d'aller-retour entre des propositions qu'on fait, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas. Voilà, t'as des réalisateurs qui sont timides, d'autres qui vont être des chiens fous. et en tant que monteur, c'est passionnant de te confronter à tout ça et de réussir à s'adapter à tous les caractères.
Oui, puis on en revient à toujours se remettre en question, se remettre, se trouver le positionnement. Enfin, on est toujours en train de faire bouger les curseurs, finalement, s'adapter.
Ouais, c'est ça.
C'est intéressant.
C'est qui est intéressant parce que ça nous fait grandir, quoi. Enfin, ça nous fait...
Oui, puis on est en questionnement permanent, finalement. Donc,
ça nous fait évoluer aussi en tant qu'être humain, en fait. Mm-hmm. C'est ça qui est chouette. Après, il faut toujours garder en tête, je pense, qu'il faut qu'on est au service du film.
Ouais.
On est au service du film, quoi qu'il arrive. On n'est pas au service du réalisateur, on n'est pas au service... De la production, même si c'est celle qui paye. On est au service du film, on est là pour faire le meilleur film possible. Si parfois il faut entrer en conflit, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Moi personnellement, je pas que ce soit une bonne méthode, mais si c'est aller à l'encontre d'une idée du réalisateur parce que tu es persuadé en tant que monteur que ce n'est pas une bonne idée pour le film, faut savoir le dire, faut savoir s'opposer, faut savoir, mais par le dialogue.
Constructif.
On parle des dialogues constructifs et une bonne bière à la fin de la journée.
Oui.
Chacun sa méthode.
Oui.
Je pense qu'il faut être curieux de tout, en fait.
Mm.
Tant par rapport au sujet auquel tu es confronté. Enfin, moi, j'essaye toujours. Parfois, c'est un effort. Sur certains types de projets, où je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Trouver toujours un truc qui me plaît, quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui m'accroche dans un concert, même si c'est un artiste que j'aime pas, la musique que j'aime pas, je vais quand même trouver quelque chose qui m'accroche. Ça peut être une belle réalisation, ça peut être une belle ambiance de public, ça peut être quelque chose qui me plaît, qui me permet d'entrer dedans. Un documentaire. Si le sujet ne m'accroche pas, a priori, je me dis, souvent je suis surpris, je me laisse surprendre par... En fait, c'est hyper intéressant quand on... C'est juste que je dis a priori parce que je ne connais pas. Mmh. En fait, c'est la notion même de l'a priori. Hein. Quand on a quelqu'un qui a des a priori, c'est pas qu'il ne connaît pas. Et donc, il faut être... qualité de monteur, il faut être curieux de tout et des gens.
Mmh.
Je pense qu'il faut aimer les gens.
Oui.
Il faut aimer les gens parce que finalement, c'est... Enfin, il y a les réalisateurs avec qui tu bosses, mais il y a aussi les gens qu'on a dans nos écrans, qui eux ne nous voient pas, mais nous on les voit.
Oui.
Et on les voit parfois trop bien.
Oui.
Et c'est à nous de les. Essayer de
les donner à voir, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça, de les découvrir, de faire passer ce qu'on a.
Les donner
vu
à voir.
Rushs, non,
c'est ça, c'est une, belle, c'est une belle formule, en fait. C'est-à-dire garder deux, parce qu'en 52 minutes pour un documentaire, garder. C'est la problématique, là, auquel on est confronté avec Rachid Taha. C'est quelqu'un qui a une vie tellement riche. Là j'ai mis bout à bout toutes les chansons qui ont été éditées pour les écouter dans le métro le soir, j'arrive à 17h d'écoute et j'ai envie de tout écouter en même temps et comment rendre en 52 minutes un personnage comme ça, où, enfin là je parle de Rachid Taha parce que c'est le projet dans lequel je monte, mais une simple interview, comment condenser une pensée en le moins de mots possible tout en ne trahissant pas la pensée.
Et ça c'est un exercice de chaque instant.
Bah oui, oui, et captation musicale, c'est pareil. Comment visuellement, comment accompagner la musique visuellement pour transmettre l'émotion que l'artiste a voulu infuser dans sa musique, ouais. Ce qu'on disait en BTS, c'est que le monteur, c'est le premier spectateur. Et c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que le réalisateur est souvent friand de réactions du monteur. Et oui, c'est vrai que c'est l'étape de dérochage, c'est important. Et important pour ça, c'est-à-dire faut être disponible, réagir aux choses, enfin être disponible émotionnellement, c'est un gros mot, mais peut-être être capable d'être touché par quelque chose qui se passe dans les images brutes, et de savoir pourquoi on est touché, et d'essayer de transmettre cette émotion par le montage, mais pas la perdre
oui.
Au cours du travail du montage.
Et ça, c'est pas évident.
D'ailleurs, un truc que j'apprends toujours à gérer, c'est que au final, un montage n'est jamais fini. Tu peux reprendre un montage à l'infini, en fait. Quand on remet les clés du film à la suite de la post-prod, comment gérer cette frustration de... Ce sentiment de « Ah, mais en fait, on aurait pu faire mieux, on n'est pas allé au bout du truc, et encore ce super plan, j'ai jamais réussi à le mettre. »
Toi, t'as souvent ce sentiment de,
ah, oui.
D'insatisfaction.
Ouais. Ah oui, oui.
C'est vrai, t'as un éternel insatisfait.
Ah oui, oui. Ah mais oui, je... Et souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué que quand je suis content d'un film, souvent, c'est le film n'est pas terrible, en fait.
Ah oui.
Mais ouais, j'ai tellement envie de faire le meilleur film possible avec ce que j'ai que quand je quitte une session de montage, j'ai le sentiment de ne pas être allé au bout complètement du truc. Alors, c'est pas du tout déprimant. Hein. Enfin, au début, je le vivais mal, en fait, quand je commençais ce métier. Aujourd'hui, je l'accepte, mais que ça fait partie du truc. Et que mais après, quand je revois le film avec du recul... avec le temps, et parce que je suis passé sur autre chose, parce que je suis sorti un peu de cette immersion, je revois le film et souvent je me dis, oh bon, c'est bien en fait.
Un insatisfait heureux finalement.
Oui, voilà, c'est ça. Enfin, je me laisse porter par l'histoire, enfin, j'ai un regard plus extérieur, et je me dis, bon, ouais, c'est pas grave. Même si après je me dis, ah oui, c'est vrai qu'il y avait quand même cette séquence, on n'a pas réussi à mettre.
Oui, et personne d'autre que toi ne l'aura vu.
Et personne, oui, bah oui. C'est comme ça que je me console.
Manque à personne.
C'est comme ça que je me console, ouais.
Tu vas au mixage un peu, toi ou...
Ouais, ça m'arrive d'aller au mixage. Alors ça c'est intéressant, parce que, pour le coup, moi, que j'essaye, hein, en général, d'accompagner le film jusqu'au bout, quand je peux. En fait, en documentaire, il y a la partie montage-son qui est toujours un peu flou, parce qu'il y a très rarement du montage son dans le documentaire.
Oui, on le prend souvent en charge.
Voilà, souvent le monteur le prend en charge, et un peu le mixeur, quoi. Fatalement, il va réorganiser les pistes, il va trouver des meilleures ambiances, ou il va aller au fond des... Enfin, peaufiner les raccords, et le son, c'est vraiment une partie du montage qui me plaît vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai envie d'accompagner ce travail... Tout comme le monteur son en fiction, il va au mixage et il participe au mixage. J'ai envie de faire ça aussi au documentaire. Mais ce n'est pas pour,
pour prendre le pouvoir. C'est pour transmettre, en fait, les intentions et du montage son au mixage, quoi.
Oui, puis souvent, ils ont quand même pas beaucoup de temps. Enfin, en tout cas, en documentaire télé, ils n'ont pas beaucoup de temps, donc ils n'ont pas forcément le temps de s'intéresser, entre guillemets, artistiquement au projet.
Oui,
finalement, ils font une passe technique.
C'est ça.
Donc, c'est vrai que...
Ça dépend qui, mais
oui, il y en a qui s'impliquent
vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que l'implication...
La première passe, en tout cas, elle est technique. Et c'est vrai que des fois, on ne retrouve pas l'impulsion qu'on a voulu mettre. Il a normalisé les trucs. Et en fait, moi, je voulais que la musique soit très forte et qu'on entende presque pas le dialogue.
En fait,
C'est des nuances comme ça qui, des fois, passent à la trappe quand on...
Exactement, parce qu'ils n'ont pas le temps... Ils n'ont pas le temps d'écouter... nos prémix, c'est vrai qu'il y a une implication forcément moindre. Un mixeur qui va avoir 3 jours pour travailler sur un film, il va moins s'impliquer forcément qu'un monteur qui a passé 7 semaines dessus. Le temps est limité, donc du coup, accompagner le son ton monteur, enfin, les quelques fois où je l'ai fait, je trouvais que c'était utile. Mais ça c'est une culture, c'est ce qu'on a appris à France Télé, en fait. Et ça, c'est chouette. Et c'est vrai que quand on demande aujourd'hui dans la prod documentaire, est-ce que tu ne peux pas garder dans ton budget un jour ou deux pour aller au mixage ? Je dis, non. c'est pas possible, c'est pas prévu. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, quand on était un monteur de 52 minutes documentaire à France 3, il va au mixage.
Ouais.
Il a un contrat de travail, il va au mixage.
Et on apprenait vachement.
Et on apprenait vachement, tout à fait.
Enfin, quand moi, j'étais toute jeune monteuse, c'était juste sur la répartition des pistes, la différence mono-stéréo, comment on pouvait aussi modifier le son, finalement. Enfin, je sais pas, éclaircir la voix, enlever certains bruits, nettoyer certains bruits, etc. Enlever des fréquences, je sais pas, s'il y a un bourdonnement, un truc comme ça, enfin... C'est des choses que enfin, on se rend pas compte de la puissance
du
mixage si on n'y a pas assisté, quoi.
Oui, c'est vrai. Mais on se rend compte aussi quand on parlait de travail en équipe et quand on récupère des timelines d'autres monteurs, on voit ceux qui ont été au mixage et ceux qui n'ont jamais été.
Ouais, voilà.
Dans la façon dont ils rangent les pistes, effectivement.
Ouais. Puis ceux qui aiment
le
montage son, ceux qui n'aiment pas, ou ceux,
oui, c'est ça. Oui, c'est
ceux qui ont déjà fait des confos.
Ça n'a pas trop.
On a à peu près tout dit.
Bah ouais, je regarde mes notes, il n'y a rien d'intéressant qui reste.
Bah, il y a beaucoup de choses intéressantes.
C'est vrai. Il n'y a pas des choses.
Et bah, cut alors.
Ah ouais?
Non.
Et on fera un pick-up si jamais.
Bah on peut, mais oui, on peut complètement faire des pick-ups. Évidemment, on peut faire des pick-ups.
Les post-cuts, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt.